Histoire d'archives avec Laure Fradec. Bonjour Laure. Quel est le programme d'aujourd'hui ?
Eh bien écoutez, je vous proposerai de parler d'une partie, d'un aspect de notre métier qui est peut-être moins connu du public, ce qu'on appelle c'est un mot qui fait un peu peur, les inspections communales. Voilà, parce que les archives conservent des archives dans leur dépôt à Digne-les-Bains, mais le directeur des archives et la directrice adjointe que je suis ont aussi pour rôle le contrôle scientifique et technique des archives publiques. Donc les archives publiques, c'est tout ce qui est produit ou reçu par une administration, un service public. Donc ça va de la commune en passant par un service de l'État, mais aussi un service du département, etc. Voilà. Et depuis 3 ans maintenant, enfin on est dans la 3e année, à la demande du préfet de région, du préfet de département plutôt, mais bon, c'est égal. On a recommencé à faire systématiquement ces inspections en commune, et donc on voit absolument toutes les communes du département. Et alors c'est intéressant parce que déjà ça nous fait faire un grand tour des communes du département et de constater des fois les communes ont du mal à imaginer les richesses qu'elles ont dans leur bureau et surtout la responsabilité qui leur incombe hein, puisque ce sont des archives extrêmement importantes pour l'histoire de la commune. Donc actuellement, on voit essentiellement trois choses essentielles. L'état civil, qui est fondamental en France, qui est très fort, très très vraiment, par rapport à d'autres pays, on a un état civil qui est extrêmement structuré. On voit aussi le cadastre. Ça aussi, c'est pas une spécificité française, mais c'est dans l'histoire de France, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et les délibérations des communes.
Et pour l'état civil, quand les gens venaient de pays étrangers et qu'il y avait une faute de calligraphie. Mm-hmm. Comment ça se passe? Puisque les gens changeaient de nom à leur insu quelque part. C'est irrémédiable.
Ah oui, l'état civil s'impose, tout à fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'effectivement, comme vous le dites, des patronymes ont évolué au cours des siècles. Et ça, c'est irrémédiable. Le changer de nom est extrêmement compliqué en France. Hein. On ne peut le faire vraiment, en gros, pour deux raisons. Soit parce qu'on a un patronyme ridicule, soit parce qu'on veut franciser son nom. Mais revenir, par exemple, à une calligraphie ancienne, c'est quasiment systématiquement refusé.
Oui, parce que la phonétique change les noms. Quelquefois, le pH se transforme en F.
Tout à fait. Et puis, même la façon d'écrire, puis même les gens, en fait, c'est déclaratif. Hein, enfin, surtout avant, maintenant, on est obligé de justifier des choses. Donc, effectivement, il y a eu des fois des petites variations. Mais bon, c'est ce qui fait la richesse aussi du patrimoine des patronymes. Hein. D'ailleurs, pourquoi on a ouvert la possibilité aux parents de donner aussi le nom de la mère? C'est une revendication, évidemment, mais c'est aussi parce que le nombre des patronymes en France, c'était en train de se réduire. Et c'est dommage, c'est dommage. Voilà. Donc voilà, enfin, juste pour venir pour les inspections en commune, ce qui est intéressant, c'est que parfois les communes ignorent, en fait, c'est vrai qu'on trouve l'état civil chez nous aussi, aux archives départementales, puisque nous conservons la collection du greffe. On trouve aussi le cadastre, puisqu'on conserve la collection de l'administration du cadastre. Mais les registres de délibération, ils ne se trouvent qu'en commune. Et ça, pour vraiment l'histoire de la ville, c'est extrêmement important. On a vraiment, c'est un effet mérite de toutes les décisions politiques qui ont été prises pour l'administration d'une communauté. Donc c'est vraiment très, très important pour les mairies, d'abord de savoir où ils se trouvent, qu'ils soient bien conservés. On leur donne des préconisations sur la conservation. Et puis surtout, on attire leur attention sur le fait que c'est vraiment fondamental et une obligation pour eux de bien les conserver. Globalement, il n'y a pas de problème majeur, hein, mais les aléas de l'histoire ont fait parfois qu'il y a eu des disparitions, des destructions, notamment évidemment pendant les périodes de guerre. Et ça, c'est irréversible. C'est comme l'état civil. Voilà.
Et les magistrats de la commune ne font aucune réticence quand vous les contactez pour faire vos recherches?
Non, bah c'est une obligation, hein. Je veux dire, c'est en général, ils nous. Alors c'est vrai que le terme d'inspection communale, c'est un peu vieillot, on va dire, et donc on est un peu obligé de faire de la pédagogie en disant que évidemment, on n'en va pas dresser de procès-verbal. Voilà, non, on est plutôt en rôle de conseil, hein, et de rappel à l'ordre quand même, hein, par rapport aux obligations des élus, par rapport à ces archives. Qui sont des archives publiques. Elles ne sont pas la propriété des élus, justement. Donc, et surtout, elles sont accessibles à l'administré, avec quelques règles, évidemment, mais elles sont accessibles. Donc, non, en général, on est très bien reçus. Des fois, ils n'ont pas vu d'archiviste depuis très longtemps, parce que c'est vrai que ça. Les inspections n'avaient pas été faites de manière systématique depuis pas mal d'années. D'ailleurs, on est mi-amusé, mi-consterné, j'allais dire, de retrouver, parce que dans les années 60, 70, il y a eu un archiviste départemental qui s'appelait Raymond Collier, que certains auditeurs connaissent peut-être parce qu'il a rédigé des ouvrages sur le département, et il a collaboré à pas mal de publications, et alors le métier était un peu différent d'aujourd'hui. Lui, en fait, il a quadrillé littéralement le département avec sa sous-archiviste, comme on appelait à l'époque, et il triait en fait les archives des communes sur place. En réalité, pour préparer ce qu'on appelle le dépôt des archives, puisque vous savez que normalement les petites communes ont l'obligation de déposer leurs archives aux archives départementales à partir du moment où elles n'ont pas les moyens d'avoir un local et surtout du personnel pour s'occuper réellement de leurs archives. Dans la réalité, les archives anciennes et modernes sont beaucoup déposées chez nous, mais il y a encore quelques communes qui ont quelque chose. Après, si c'est bien conservé, que les communes ont conscience de l'intérêt et de cette richesse-là, il n'y a pas de problème. Donc, pour revenir à Raymond Collier, il était passé systématiquement dans toutes les communes avec sa sous-archiviste et il préparait donc les dépôts. Donc, c'est caractéristique, il faisait des petites... Il faisait des petites liasses, ce qu'on appelle des liasses, hein, qu'il mettait un tampon avec directement le numéro de la série et la lettre de la série et pour le futur dépôt. Et il ficelait ça avec une espèce de ficelle, vous savez, qu'on utilise en cuisine, là, une ficelle de cuisine. Et ça, c'était dans les années 60. Et normalement, quelqu'un après a des archives où la commune devait passer déposer. Et des fois, c'est resté. Et on les retrouve telles quelles, hein, ça fait 40-50 ans, en général, ça n'a pas bougé. Donc là, on les communes, on leur dit, écoutez, là, on les prend maintenant, vous n'y avez pas touché pendant 50 ans, je crois qu'on peut les déposer aux archives maintenant.
Et les codes qu'il avait écrits sur ces liasses, c'était cohérent ou c'était ces codes à lui?
Non, c'est le... Ah non, ça va, alors là, pour le coup, en matière de... Que ce soit d'archives ou de bibliothèques, la classification, évidemment, a évolué, mais elle est très normée. Hein. Donc c'est un plan de classement qui est propre aux archives des communes. Voilà, et c'est toujours d'actualité. Et après, c'est pris en charge par l'agent des archives qui est responsable des archives communales. Mais en général, quand c'est les archives triées par Raymond Collier, il y a peu de travail... maintenant à faire, hein, hormis le nettoyage, reconditionner, mais il avait très bien fait ça, évidemment, quoi.
Ben, c'était pas forcément par rapport à lui, mais oui. chaque archiviste pouvait... là, apparemment, c'est bien codifié.
Non,
mais...
c'est normé, ouais. Voilà, d'accord. C'est normé. C'est normé depuis très longtemps. C'est ça pour ça. Vous savez, les archivistes sont des gens très organisés, donc très tôt, ils ont réfléchi à comment faire. Alors après, évidemment, les choses ont évolué. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, on ne classe plus par série. On fait ce qu'on appelle la cotation en continu, hein, depuis 1940. Enfin, pour les archives, à partir de 1945. Donc en fait, c'est grâce au progrès de l'indexation. Où on peut retrouver la boîte 1096W. Elle peut parler aussi bien de l'administration de la police que de l'administration... Voilà. Il n'y a plus des lettres par série, hein, pour les archives à partir de 45. Voilà.
Les normes que vous utilisez sont connues de tout le monde.
Tout à fait. Oui, c'est des normes. Il y a des normes françaises. Et puis, en plus, les archivistes travaillent de manière à un niveau international pour harmoniser justement les protocoles de classement et de tri. Hein.
Et quand vous faites des recherches comme ça, est-ce que vous avez des surprises en allant dans les mairies.
Ah oui, plein de surprises, plein de surprises. Des fois des mauvaises, hein, quand je, comme je vous le dis, il y a des, il y a malheureusement des fois des disparitions ou simplement même, je suis allée dans une commune où alors ils ont découvert avec ma venue qu'ils n'avaient aucun registre des délibérations à partir de, enfin après, non avant, pardon, 1960. Et alors, c'était vraiment le blanc, quoi. Ils n'arrivaient pas à, alors. Souvent, c'est un déclic, notre venue, c'est-à-dire ils disent « Ah oui, il faut quand même qu'on essaye un peu de rassembler les choses voilà, pour les communes pour lesquelles c'est compliqué. » Après, il faut voir qu'il y a des communes pour lesquelles il y a eu des déménagements, des communes confusionnées. Enfin, il faut se mettre aussi à la place des... Puis vous savez, hein, c'est quand il y a un secrétaire de mairie permanent qui assure une continuité, mais les élus, ça change. Certains n'ont pas tous la connaissance de ce que c'est qu'une administration communale. Ils apprennent, évidemment, mais il faut comprendre qu'il y a une antériorité, comment c'est rangé. Voilà, non, donc il y a quelques mauvaises surprises. Des bonnes surprises parce que des fois, il y a des petits trésors, au sens archivistique du terme, évidemment. Là, la dernière fois, une des dernières inspections que j'ai faites, il y avait, je pense que quand ils avaient vidé l'école de la commune, il y avait, vous savez, les grandes affiches pédagogiques pour expliquer les métiers, apprendre aux enfants à lire. On a tous ces images-là en tête, même si on est trop jeune pour l'avoir forcément connue dans nos propres classes. Mais vous voyez, c'est vraiment ces images très après-guerre. Il y avait aussi ce qu'ils appelaient un syllabaire. Donc c'est un grand livre imagé pour apprendre aux enfants à écrire. Bon, évidemment, tout ça est totalement désuet aujourd'hui à l'heure d'Internet, mais c'est souvent des beaux objets qui sont parfois relégués dans un coin. Donc ces inspections sont l'occasion de dire aux gens des communes, écoutez, ça c'est vraiment intéressant, il faut le mettre de côté. On trouve aussi souvent, parce que vous savez que le département, on avait parlé d'ailleurs la dernière fois, et un département où il y a eu énormément de placements de ce qu'on appelait les enfants trouvés, hein, donc des enfants qui souvent étaient nés plutôt sur le littoral, hein, donc notamment dans le coin de Marseille, et d'enfants qui étaient mis en nourrice dans cette région, parce que c'est une région rurale et que c'était un complément de revenus pour les familles qui accueillaient ces enfants. Et dans les communes, on trouve ce qu'on appelle les registres de nourrices. Donc les noms des femmes qui prenaient en charge ces enfants, combien elles étaient payées, selon le type de l'alimentation qu'elles leur donnaient, elles pouvaient les allaiter, etc. Et c'est vraiment très, très touchant et c'est vraiment une réalité pour ce département.
Mais qui c'est qui payait pour les familles quand elles accueillaient un enfant comme ça?
C'était le... Alors, quand c'est des enfants trouvés, c'est des enfants abandonnés, hein, donc c'est une prise en charge de l'État. Hein. Après, il y avait aussi, effectivement, vous avez raison de le dire, des mises en nourrice faites par les familles elles-mêmes. Hein. Donc là, c'était les familles qui payaient parce que... la mère était seule, ne pouvait pas garder l'enfant près d'elle. Voilà. Mais bon, ça avait un vrai coût. Hein, donc tout le monde ne pouvait pas se le permettre. D'où le problème des enfants abandonnés, évidemment. Quoi. Qui est une réalité qu'on oublie. Hein, je veux dire, toutes ces naissances que les femmes avaient du mal à assumer, et pour cause, hein, pour cause de misère, c'est vraiment terrible. Hein.
Et malheureusement, actuellement, ça se produit encore.
Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense que quand même, j'ai pas les chiffres en tête, hein, mais on a dû quand même sérieusement réduire. Le contrôle des naissances, malgré tout, a permis la réduction très importante de ce phénomène d'abandon, hein, heureusement. Au moins une chose qu'il faut mettre au crédit de la modernité.
Et pour ces archives, quand vous allez donc dans les communes, est-ce que les communes entre elles se concertent avant que vous ne veniez pour réunir des documents dont vous auriez besoin ?
Non, parce qu'en fait, quand on prépare ces inspections, d'abord, on prépare toujours des inspections en fonction de ce qui avait été vu lors de précédentes inspections, des fois très longtemps avant. Et on cible vraiment sur ces trois archives dont j'ai parlé au début, donc le cadastre, les registres de libération et l'état civil. Après, évidemment, on regarde les... puis surtout, on visite absolument tous les lieux de conservation. Le placard dans le bureau du maire, le grenier, la cave. Voilà, parce que des fois, c'est un peu dispersé un peu partout dans la mairie. Pas toujours. Certains ont un vrai local à archives.
Voilà. Justement, quand ils ont un local à archives, est-ce que vous leur donnez conseil pour la conservation de ces documents ?
Tout à fait. Il y a des règles très simples, hein, qui sont vraiment des règles de bon sens par rapport au degré d'humidité, à la chaleur. On préconise les étagères en métal pour éviter les parasites, enfin, du bois. Voilà, donc c'est des règles très simples et on a créé sur notre site internet un onglet spécifique pour les collectivités avec des petites, justement, ça fait partie des petits documents téléchargeables et les petites préconisations très simples concernant la bonne conservation des archives.
Justement, ouais. Votre site internet, quel est-il ?
Archives 04, voilà, archives au pluriel 04, et où vous trouverez évidemment nos actualités en termes de conférences, expositions, tous nos catalogues, la plupart, hein, ceux qui sont en tout cas, qui ont été diffusés gratuitement au moment de la parution, sont téléchargeables en PDF. Vous avez la liste des expositions que l'on prête, hein, puisqu'on a tout un volet d'expositions itinérantes que l'on prête gratuitement à qui le veut. Voilà, et puis on a toutes nos ressources en ligne, hein, donc l'état civil, le cadastre qu'on a mis en ligne à la limite de ce que la loi nous autorise à mettre en ligne. On a évidemment le fonds Saint-Marcel et Séric, hein, dont on parle très souvent parce que c'est une richesse extraordinaire pour nous dans notre travail et puis pour tout le monde. C'est ce bourgeois de Sisteron qui a photographié très très tôt, qui s'est pris de passion pour la photographie très tôt et donc dès 1860 a commencé à faire des photos du département et au-delà, hein, du département, et dont nous avons de mémoire environ 1600 clichés qui sont mis en ligne sur notre base et qui sont indexés. Donc les gens peuvent faire la recherche par un nom de lieu ou un thème, et c'est évidemment les photos, souvent c'était des photos sur plaque de verre qui ont une définition extraordinaire. Et ce fonds a donné lieu à une exposition et à un catalogue qui est en vente aux archives.
Pour qui aime la photo, de découvrir des clichés de 1860, c'est pas les balbutiements, mais bon, c'est juste...
Ah, c'est très tôt, quand même.
C'est tôt, quand même.
C'est très tôt. C'est très tôt. C'est très tôt. Et puis, en plus, il a photographié jusqu'au début, au début 20e. Donc, vraiment, voilà, on a une bonne amplitude. Et alors, évidemment, il y a beaucoup Sisteron et sa région. Alors, c'est fantastique, par exemple, de découvrir... parce qu'on a... C'est pareil, hein, ça fait partie des fantasmes, j'allais dire, des gens, de dire que oui, la forêt a reculé, etc. Et quand on voit les photos, en fait, c'est tout le contraire. Alors, évidemment, je ne parle pas à l'échelle nationale, hein, mais par exemple, ici, c'est clair que c'était très déforesté à cause de l'élevage. Hein, et quand on voit des photos de Castellane, de Sisteron, mais c'est ultra minéral. Hein, y a quasiment pas d'arbres. Hein, et donc, il y a eu vraiment des replantations. Et voilà, c'est ce qui est amusant, parce que c'est un peu à rebours de ce qu'on... J'allais dire, vous savez, l'espèce de vécu que chacun a, de dire que l'arbre recule. C'est vrai dans certains endroits, mais ça n'est pas vrai partout. Et les photos, pour ça, sont imparables, parce que quand vous voyez c'est vraiment ces parois nues, c'est très impressionnant. Castellane, c'est assez frappant aussi. Hein.
Ça conforte un petit peu ce que vous pensiez quand vous faites de recherche avant d'avoir accès à ces photos. Ça conforte votre... Pas votre jugement, mais ce que vous attendiez ?
Bah, de toute façon, pour la reforestation, on sait qu'il y a eu une politique, ça c'est connu, hein, une politique volontariste de l'État de replanter, de reforester. Hein, c'est ce qu'on appelle la restauration des terrains de montagne qui a eu lieu sur toute la zone montagne, pas seulement ici, hein, mais vraiment sur toute la zone, notamment dans les Alpes. Ben parce que évidemment, on s'est rendu compte que quand il n'y avait plus d'arbres et en cas d'orage, ce qu'on constate encore aujourd'hui d'ailleurs malheureusement, eh ben il y a des énormes dégradations de terrain, des éboulements, et il y a eu vraiment à la fin du 19e une prise de conscience très forte qu'il fallait stopper ce phénomène d'érosion, et que pour le stopper, c'était de replanter des arbres. Voilà. On n'a rien inventé. Hein. Et alors c'est vrai qu'il n'y avait pas le béton à l'époque, on bétonnait moins. Mais en tout cas, on avait beaucoup déforesté et on a reforesté, ce qui explique d'ailleurs le fait qu'on ait beaucoup de pins par endroit, hein, parce qu'en réalité, on a beaucoup planté des pins. D'où le fameux train d'épines.
Hein. Par exemple.
Le train d'épines, parce que justement, on avait replanté des résineux. Hein.
Et au niveau technique, avant, les bateaux étaient en bois, les mâts étaient en bois. Est-ce que les essences qu'il y a dans notre département est utilisé pour les bateaux?
Ça, je n'en sais rien. Mais je pense que de toute façon, quand on a planté, ce n'était pas tout de suite pour exploiter, hein, parce qu'il fallait quand même que les arbres...
Avant de replanter.
Ah non, moi, je pense qu'en fait, alors, je ne connais pas très bien cette histoire pour le coup, mais ce que j'en sais, c'est que je pense que c'est vraiment l'élevage, hein, notamment les chèvres, les moutons, qui pour parler familièrement, ratiboisent absolument tout. Hein. Il suffit de voir comment ça se passe dans un champ. Quand on a une bête comme ça, c'est assez dévastateur. Hein,
à contrario de la vache qui broute, la chèvre arrache.
Ah bah voilà, la chèvre arrache. Donc ça avait fait des dégâts énormes. Hein, voilà. Puis il y avait des grands troupeaux. Voilà, c'était une région d'élevage hein, quand même. Donc petits élevages, hein, pas de vaches à viande, mais beaucoup de bêtes à cornes, hein, de petites bêtes à cornes.
Ouais. Et hormis de trouver des trésors comme les photos, est-ce que vous trouvez d'autres documents qui vous émoustille comme ça?
Vous voulez dire quand on va en commune? Je vous dis, après, nous, on y va vraiment pour des choses très, très précises. Après, c'est toujours très, très impressionnant. Il y a des communes qui ont conservé encore leurs archives anciennes, qui sont très, très bien conservées. Et quand vous voyez, alors, l'ancêtre du registre des délibérations, c'est les délibérations de ce qu'on appelait les communautés, la communauté villageoise. Donc, il y avait déjà un embryon de vie municipale, même si le terme est anachronique pour avant la Révolution. Et c'est vrai que c'est vraiment émouvant et intéressant de voir toute la vie de la communauté consignée sur papier et auquel on a toujours accès aujourd'hui. C'est quand même... on a une vraie continuité comme ça. C'est d'ailleurs pour ça que des historiens locaux peuvent écrire la chronique de leur village. Hein, c'est en s'appuyant essentiellement sur ces registres de délibération pour après la Révolution et ces délibérations de communauté pour l'Ancien Régime. C'est une mine d'informations. Après, c'est long, il faut lire évidemment page à page, mais c'est ce qui explique que certains historiens ont pu écrire l'histoire de leur lieu de vie.
Vous allez souvent du côté de Ganagobi.
Oui.
Vous en avez parlé la dernière fois. Là, vous avez une autre approche.
Bah, écoutez, nous sommes en train de travailler, comme je l'ai annoncé la dernière fois, la future exposition que nous allons consacrer au monastère de Ganagobi et plus spécifiquement aux mosaïques, puisque les archives ont reçu en don le fonds photographique et quelques archives écrites de la société qui a restauré dans les années 1980 le pavement de mosaïque pour la communauté et sous le contrôle de l'administration des monuments historiques. Donc c'est passionnant parce qu'on voit vraiment le travail assez novateur, hein, puisque la mosaïque a été déposée pour être restaurée dans les ateliers à Périgueux et reposée ensuite. Voilà. Non, là je voulais revenir sur Ganagobi parce que depuis la dernière fois, on savait consultant la bibliographie et même les archives, que notamment la SOCRA, hein, puisque c'est la société qui a travaillé dans les années 80 à cette restauration, avait utilisé alors à chaque fois on parlait de calques exécutés par un abbé. Voilà, donc on voyait la mention de ces calques, mais on les avait jamais vus. Et là, on les a vus. On les a vus puisqu'ils sont toujours conservés à Ganagobi par les moines. Et donc, c'est vraiment, pour le coup, c'est d'une extraordinaire parce que ce sont des calques qui sont peints, à la gouache. Et donc, ils reprennent évidemment les couleurs de la mosaïque. Donc, on est essentiellement dans le noir, l'ocre et le rouge. Et alors c'est incroyable parce que c'est d'une fraîcheur, il faut quand même savoir, donc le fameux abbé qui était le don Jacques-Christophe Gauthier, abbé de Saint-Madeleine de Marseille, hein, puisque la communauté qui est actuellement à Hagia Nagobie a été une communauté un peu itinérante, on va dire ça comme ça, et donc elle a été à un moment donné domiciliée à Marseille. Et cet abbé avait une forte sensibilité artistique, hein, parce que, on est moine, mais souvent on a une vie avant, donc je ne sais pas quelle formation il avait, mais visiblement il était quand même assez sensible à l'esthétique. Et donc il a relevé grandeur nature, les motifs de la mosaïque, ce qui est hyper intéressant parce qu'on est quand même en 1897, donc quand même à toute fin 19e. La mosaïque a été déjà abîmée, hein, mais on a un état quand même assez ancien de ce qu'était cette mosaïque. Et alors, c'est grandeur nature, donc on les a dépliés. Il y a certains qui font 10 mètres de long, hein, parce que finalement, il a collé en fait des morceaux de calque, et c'est incroyable. Donc ça, on va vraiment essayer on va pas montrer les calques parce qu'évidemment ils sont très fragiles, ils sont très grands, mais on va essayer de publier le maximum dans le catalogue pour que les gens voient parce que c'est une œuvre après l'œuvre, hein. Il y a la mosaïque et puis il y a les relevés. C'est assez passionnant. Alors, ce sont des relevés des motifs, c'est-à-dire que on ne voit pas les tesselles. Les tesselles, vous savez, c'est ces petits morceaux de marbre, enfin de pierre qui composent la mosaïque. On ne voit pas le dessin des tesselles. On a juste le motif de l'éléphant, du cavalier, etc., mais grandeur nature et en couleur.
Ce qui fait office de joint.
Exactement. Oui, enfin de joint, et puis surtout, c'est ce qui compose le motif, en fait. Hein. Le cavalier, ça va être, je sais pas, 2000 tesselles. Hein. T'as plein de petits cubes comme ça. C'est des cubes, en fait, les tesselles. Voilà. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que à partir de ces dessins et aussi de ce qu'il y avait sur place, dans les années 1960, un étudiant d'école d'architecture de Paris, en vacances sur le plateau de Hagia Nagobie, avec un camarade dont, si j'ai bien compris, l'oncle était moine dans la communauté, se prend un peu de passion aussi pour cette mosaïque, et décide d'en faire un lui aussi un relevé, mais différent de celui de l'abbé Gauthier, parce que là, il fait vraiment... Dans la bibliographie, on parle toujours de maquette. Alors maquette, c'est vrai qu'on a un peu une image de quelque chose en trois dimensions. Bon, là, c'est une mosaïque, donc évidemment, on est uniquement en deux dimensions. Donc, on va dire une maquette, une reconstitution. Alors, j'ai plus la taille, mais c'est quand même assez grand. On doit être sur du 4 mètres, sur 2-3 mètres. Donc, c'est quand même un grand objet. Et là, la différence de l'abbé Gauthier, en fait, on a vraiment... C'est hyper intéressant parce que quand on est au-dessus de cette maquette, on appréhende vraiment... les trois absidioles d'un seul regard, ce qui n'est pas possible quand on est, je ne sais pas si vous avez en tête le pavement de mosaïque de Hagia Nagobie, en fait il y a trois absidioles, on ne peut pas embrasser, si vous voulez, tous les panneaux décoratifs d'un seul regard, on est obligé de se déplacer. Là, avec cette maquette donc, qui a été faite par Francis Rigaud, à l'époque donc jeune étudiant en architecture, on a vraiment, on embrasse en fait tout le décor, ce qui est assez spectaculaire, je vais dire. Et en plus, à la différence aussi de l'abbé Gauthier, lui, il fait il représente les tesselles. Alors c'est presque, vous savez, c'est une œuvre aussi dans l'œuvre. Hein. Il y a trois œuvres. Il y a la mosaïque, elle est relevée de l'abbé Gauthier, le travail de Francis Rigaud. Et on a presque l'impression, vous savez, que c'est un travail de pointilliste. Hein. Vous voyez, ça fait plein de petits points. C'est incroyable, je ne sais pas combien de temps il a mis pour faire ça. Visiblement... Il a fait les relevés en 64 et en 65, il a réalisé la maquette d'après ce qu'il avait fait. Et là aussi, la maquette est conservée. On ne pourra sans doute pas la montrer telle que, mais au moins une reproduction, parce que c'est très, très, vraiment très spectaculaire. C'est d'ailleurs ce travail-là que les moines, après, ont utilisé en illustration. Si des gens connaissent un peu les publications ou même les cartes postales qui ont été éditées, souvent, c'est le travail de Francis Rigaud et non pas une photographie qui est représentée dans les ouvrages. Voilà. Donc ça, on est vraiment très content parce qu'on a vraiment une histoire dans l'histoire. En plus, c'est assez amusant parce que pour revenir à l'abbé Gauthier, c'est aussi l'histoire de la transmission de la propriété de l'abbaye, parce que vous savez que l'abbaye évidemment a subi la révolution comme beaucoup d'édifices religieux, et puis à un moment donné est passée dans les mains d'un privé. Et a été revendu, donc j'ai plus en tête, mais on doit être dans les années 1870, 1880, a été revendu à un abbé, donc à l'époque où la communauté était à Marseille. Il avait eu un petit legs et il a décidé d'acheter cette abbaye, avec l'idée sans doute d'en faire quelque chose plus tard. Et alors, le titre de propriété a été fait à son nom. Bien leur en a pris, puisque quand il a fallu, il y a eu la séparation de l'Église et de l'État. Voilà. Du coup, c'est quelque chose qui est vraiment resté entre les mains de la communauté. Et les premiers actes de propriété, c'est pas au nom de la communauté, mais c'est au nom de l'abbé. Alors, en l'occurrence, il y a l'abbé Gibal, après il y a l'abbé Estrangin, qui sont propriétaires en titre. Bon, aujourd'hui, c'est évidemment la communauté de manière collective qui en est propriétaire. Mais voilà, c'est assez amusant. Et donc, ce fameux abbé Gauthier, évidemment, commence à réfléchir à comment remettre en valeur cet édifice qui était très très ruiné. On ne se rend pas compte. Hein. Là aussi, les photos sont d'un grand secours. C'était une ruine, hein, Ganagobi. On n'imagine pas quand on y va aujourd'hui. À la fin du 18e, les mosaïques étaient ensevelies, hein, on les voyait plus, le réfectoire, le cloître était ruiné, l'église aussi, voilà. Et ça perdure tout au long du 19e, et il a fallu donc que cette abbaye soit achetée par ses frères, ses moines, qui commencent à s'y intéresser, à réfléchir à comment la relever, parce qu'on est vraiment dans cette idée-là. Et puis après, il y a eu l'administration des monuments historiques, il y a eu des protections aussi des monuments historiques qui ont permis des aides et puis de suivre un petit peu ces travaux. Et aujourd'hui, Ganagobi est cet havre de paix que l'on connaît qui est très, très connu, hein, très connu.
Et pour nos auditeurs, d'avoir accès à ça, comment peuvent-ils le faire ?
Pour voir la mosaïque, elle est accessible. Hein, enfin, je veux dire, l'église est ouverte tous les jours à partir de 15h, je crois. Hein, parce que évidemment, il y a des moments où, pour les offices des moines, ça n'est pas accessible. Donc, on peut la voir. Après, les calques, etc., c'est des choses très fragiles. Donc, c'est pour ça l'intérêt de faire cette exposition et de pouvoir publier. Ça va être justement de permettre aux gens d'accéder à ces documents qui ne sont pas exposables. Hein. Les relevés sont grandeur nature. Donc, je sais plus en tête, mais je crois qu'on est à plus de 70 mètres carrés de dessins. Donc, c'est pas très exposable.
Et pour les voir, ces dessins, faut-il prendre de la hauteur pour bien les avoir une représentation ?
Oui, oui, oui. Là on a pour bien les voir, on a des gens chez nous qui sont en train de les photographier. Il faut se mettre en hauteur, oui, c'est mieux.
La technologie telle que les drones peut vous aider ?
On pourrait y penser. Alors, vous savez, c'est le département a un service d'archéologie et notamment nos archéologues départementaux travaillent beaucoup à la cathédrale l'ancienne cathédrale de Senez. Et Mathias Dupuis, le responsable du service, a fait appel à un pilote de drone pour avoir des prises de vue intéressantes de l'église à l'intérieur et aussi à l'extérieur. Donc oui, c'est des choses qui sont de plus en plus utilisées et utilisables. Là, j'avoue qu'on n'y a pas pensé pour l'instant. Non, parce qu'il faudrait, pouvoir... Oui, non, mais si on pourrait, avec une grande pièce, voilà. Non, mais avec un bon appareil photo et une possibilité d'être un petit peu en hauteur, on devrait y arriver. On a un très bon photographe aux archives départementales qui se sort de toutes les situations un peu compliquées.
Comment s'appelle-t-il ?
Jean-Marc Delaille. D'accord. Voilà. Jean-Marc Delaille est notre, vraiment, une cheville ouvrière de notre politique de publication et d'exposition, parce que c'est lui qui fait les photos, mais c'est lui aussi qui fait toute la mise en page de nos publications, parce qu'on fait tout nous-mêmes, hormis l'impression. Voilà. Donc c'est un gain de temps et de coût qui est faramineux. Et sans Jean-Marc Delaille, nous ne pourrions pas faire autant d'expositions et de publications tous les ans, chaque année, parce que ça nous coûterait trop cher, tout simplement. Et là, le fait d'avoir quelqu'un dans le service qui fait vraiment ça très bien est vraiment une chance. Nous sommes un des services... Alors, Les Alpes-de-Provence sont un des plus petits départements de France, mais les archives départementales sont un des services de France qui fait le plus de publications et d'expositions par an. Voilà, ce qui est un indicateur certain du travail de Monsieur Delaye.
Et la prochaine publication ?
Alors, ben justement, on est en train de travailler sur l'exposition de Ghana Gobi qui sera inaugurée vendredi 7 juillet. Voilà, donc il y aura à la fois, parce qu'évidemment il faut faire la mise en page de l'exposition et la mise en page du catalogue, c'est pas la même chose. Donc il y aura cette publication là. On a déjà terminé le prochain catalogue sur la Grande Guerre, 17-18, qui sera inauguré en septembre. Voilà. Et puis après, les prochaines publications, ça va être le compte-rendu des journées que nous avions fait, vous savez, sur la matière et le bâti, sur la pierre. Voilà. Donc, on est en train d'éditer les actes qui seront publiés par les archives. Voilà.
Prochain rendez-vous d'Histoire d'Archives, ça sera le 18 mai prochain.
Très bien.
Le troisième jeudi du mois, comme tous les mois d'ailleurs. Laure Franek. Merci.
Jean-Marc, c'est moi qui vous remercie.